Le peuple de la mer. Première partie, chapitre 3. Le dépit des envieux était à son mouillage, dans l'abri de l'herbaudière. Urbain Coët avait établi son corps mort derrière le double rang de chaloupes parallèle à la jetée et du côté de terre, en sorte que, de sa maison, il pouvait avoir sa barque à l'œil. Le vieux canot, avec lequel il pêchait les cancres et la lubine dans les rochers de l'île, remis à neuf et peint aux couleurs du sloop, était amarré à son flanc, comme un petit serré contre une mère. Et toutes les autres barques avaient également, autour d'elles, une ou deux petites embarcations qui jouaient sur les houles sans jamais s'écarter. La brise d'ouest, qui soufflait le jour du lancement, avait forci au décroît de la marée. Les drapeaux des usines vibraient sur les drisses arquées. La nue, fumeuse, dérivait d'une masse vers l'est et montait sans cesse de l'horizon où la mer était noire. Plus près, des moutons mêlaient à son vert profond leurs cabrioles blanches. La mer remplissait l'air de son bruit, criait en écumant dans les rochers de la pointe, bombardait à coups de vagues la jetée sonore, roulait les barques à bout de chaîne, ressaquait au long des cales et venait s'aplatir, amollie, brisée, sur la plage où le vent faisait courir le sable au ras du sol en grésillant. Chez Coët, on travaillait à monter des filets, tandis que la Marie-Jeanne, en tablier de serpillière, préparait la teinture. Le vent ronflait sous les portes, et dans la cour, du chaume tournait avec un bruit soyeux. Au-dessus du marais, les moulins prudents ne dressaient plus dans l'air tumultueux que l'arête sans prise de leurs ailes. On entendait la mer qui tourmentait la côte et se battait au large. Il n'y avait dehors qu'un groupe de causeurs à l'abri du canot de sauvetage. Terré au foyer ou à boire chez Zacharie, dont la buvette affiche en lettres d'un pied la rubrique prétentieuse « Au XXe siècle », les hommes attendaient l'embellie pour sortir, et de temps à autre, ils venaient à la jetée, sonder la mer menaçante, avec de l'inquiétude au ventre et au cœur aussi, à cause des gosses et de la femme. De sa fenêtre, la Marie-Jeanne voyait danser la mâture neuve du dépit des envieux, où clapotait un gréement clair. Le pont, rayé de coutures, lui apparaissait par intervalles au roulis. Et elle était fière, parce qu'il n'y avait pas dans le port une autre barque si propre et si légère au dos des vagues. À bord, la Marie-Jeanne connaissait quatre bonnes paillasses, remplies de varechs bien séchés et mises en place par elle, le jour où le dépit des envieux prit mouillage à l'herbaudière pour la première fois, quatre bonnes paillasses carrelées de gris et de violet, où l'on enfonçait en se couchant, et qui vous tenait la chair, la serrait, la calait de tous côtés si douillettement. N'était-elle pas tombée sur l'une qui l'avait reçue comme des bras ouverts l'autre soir? Elle était seule à bord, avec son homme qui la contemplait arranger les couchettes, le corsage dégrafé parce qu'il faisait chaud dans le ventre du bateau. Et brusquement, voilà son urbain qui l'empoigne, la roule et se glisse sur elle en heurtant son échine au plafond bas. Elle avait crié à cause de sa coiffe, elle avait ri, et puis, ma foi, c'était si bon d'être prise comme ça tout d'un coup, mangée, happée, comme qui dirait. Elle se rappelait le carré de nuages à perte de vue que découpait le capot au-dessus d'elle, les sonorités de la coque amplifiant le fouettement des drisses. Et qu'au roulis, de peur de tomber, elle cramponnait les reins nerveux de son gars. Ah, les bonnes paillasses, le bon souvenir, que Coët nommait en riant le coup du baptême. La Marie-Jeanne était heureuse, parce que son homme penserait mieux à elle dans cette couchette où il l'avait fait mourir, parce qu'elle avait laissé là beaucoup de sa grande joie d'amour qui demeurerait comme une petite âme au cœur même du bateau. Et pourtant, la bourrasque persistante l'inquiétait. Depuis son lancement, le dépit des envieux n'avait pu se mesurer avec les autres et battre la mer libre pour laquelle il était fait. Urbain ne soufflait mot, mais son visage se fermait davantage et elle sentait que le temps lui durait à terre. Les hommes pouvaient haïr sa barque, mais la mer, pourquoi n'était-elle pas plus clémente? La Marie-Jeanne s'efforçait d'être gaie, active, mais quand son homme ne l'entendait pas, elle disait volontiers qu'il n'avait pas de chance. Enfin, le soleil reparut. Au ciel, à peu près nettoyé, flottaient encore de grands nuages fous, comme des oiseaux perdus derrière un vol passé, et leur ombre sur l'océan déplaçait des taches sombres, immenses. Dans le matin pâle, les vareuses bleues se pressèrent vers la jetée, les canots débordaient, accostaient les chaloupes, les avirons heurtaient les coques, battaient l'eau, et déjà les sloops appareillaient aux cris des poulies. Le soleil bas frappait l'intérieur de la digue, allumant les granits blonds qui, comme un mur d'or, se reflétaient dans la mer plate. Sur la dune, parmi le vert jaune des joncs courts, une petite femme guettait, la coiffe lumineuse, du vent dans les jupes. La Marie-Jeanne voulait voir partir son homme. Coëte sortit un des derniers, et, les balises doublées, bordant plat sa voilure, il serra le vent à la suite des autres barques qui allaient en caravane, toutes inclinées sur le même bord du côté du soleil. Malgré l'ombre qu'elles portaient dans leur creux, les voiles du dépit des envieux éclataient de blancheur, et, d'un mouvement sûr, elles avançaient, tour à tour soulevées et inclinées au tangage, comme dans un grand salut. L'avant du sloop charruait un peu lourdement la mer qui se gonflait et bouillonnait à l'épaule, mais l'arrière glissait bien dans le sillon, en entraînant, comme une auto, les feuilles mortes, les bulles éphémères et l'écume subtile. Coup sur coup, Coët dépassa l'espoir en Dieu, l'ange voyageur, le secours de ma vie, et rattrapa lentement le bon pasteur, la barque noire et blanche où le nain est pilote. Les pêcheurs ne parlaient point à leur bord. Les hommes de mer ne sont pas bavards. La pipe occupe leur bouche, l'océan leur œil et leurs pensées. Mais, tournés vers la nouvelle barque, toutes les faces rudes et boucanées suivaient de près sa marche, et, à la voir serrer le vent en les gagnant de vitesse, une émulation jalouse remuait le sang des hommes et donnait à ce départ de pêche une allure de régate. Le laissez-les-dire tenait la tête, au loin, reconnaissable à sa haute voilure bleue, et perchait à la barre, se retournait par intervalles vers la pyramide blanche qui croissait régulièrement derrière lui sur l'eau ensoleillée. Au loup voyage, les sardiniers portés par le jusant s'engageaient dans la grise. Fraîche, élastique au voile, la brise sentait fort la salure du large. Sur la jetée, très noire dans la côte blonde, l'œil perçant de Coëte distinguait encore un point, sa femme sûrement, qui l'accompagnait du regard, et il eut de l'orgueil de sa barque, de la Marie-Jeanne et de lui-même. Le point s'effaça, la digue s'éteignit. Il n'y eut plus que la bosse confuse de l'île embrumée, et devant lui, la mer infinie, où les petits bateaux se perdaient parmi les vagues. À 10 milles dans l'ouest, le laissez-les-dire rencontra la sardine et mit en pêche. L'aimable Clara arrivait à son tour, puis, tout aussitôt, ce fut le dépit des envieux qui avait semé les concurrents en 3 heures de route. À son bord, Perchet jura un nom de Dieu formidable en houlant du torse et bottant son pont. Doublener n'en revenait pas de voir Coëte derrière lui, tandis que la voilure de son frère, marquée de l'ancre pilote, se perdait au loin parmi les traînards. Mais bientôt le ciel se chargea de nouveau, et l'ouest recommença de lâcher des nuages sombres et crevassés, au travers desquels tombaient des raies compactes de lumière d'or. Le soleil avait des jambes, comme disent les marins, et c'était mauvais signe. Déjà, la mer s'assombrissait, se creusait, couverte de houppettes blanches qui éclataient à perte de vue. tandis que des glacis s'allumaient et s'éteignaient au penchant des vagues. L'horizon obscurci se fermait, comme une muraille au pied de laquelle l'océan se détachait en champ clair, sur lequel roulait déjà la tempête. En hâte, les pêcheurs embarquent les filets, amarrent les canots au cul des sloupes et tiennent la cape pour réduire leur voilure qui fouette à grands coups secs. Et les barques, si fières au port, si énormes au chantier, si colorées dans le soleil, cahotent et gémissent, pauvres petites choses noires que la mer bouscule aveuglément et sur lesquelles des hommes cramponnés s'agitent. D'instant en instant, le vent force, s'amplifie, au point de devenir palpable, bien qu'invisible. Il a du poids et siffle. Il pèse sur les poitrines, assourdit l'oreille, et, comme à la main, écrète les vagues pour emporter dans sa course de l'écume et du sel. Au baril, les sloupes évitent vent arrière et fuient vers l'île, dont le phare du pilier repère la position. Les mâts, dressés haut par-dessus les voiles, geignent en ployant. Les palans crient, les haubans raidissent par secousses, et les barques déboulent en poussées successives les vallonnements de la mer. Elles fuient, parfois déjaugées de l'avant, montrant la quille et leurs dessous brillants de coltard, parfois tombant au creux d'une montagne d'eau qui masque l'horizon. Elles fuient, poursuivies sans cesse par les vagues innombrables qui les gagnent, déferlent sur les tableaux, envahissent les ponts ou des ruisseaux, hésitent, les enlèvent à plein d'eau, s'effacent devant d'autres qui accourent, gonflées, baveuses, heurtent les arrières et passent pour être remplacées par d'autres encore, aussi méchantes, aussi énormes. Au roulis, le coin trempé des grands voiles monte alternativement dans le ciel et s'abat dans la mer. À bout de bosse, les canots, précipités ou retenus par une lame, mollissent et tendent tour à tour leurs amarres en menaçant de les rompre. L'écume vole et l'embrun fouette en cinglant. Arc-bouté sur sa barre, calé dans un trou, ras le pont, l'homme veille, les yeux petits, la trogne en avant, le dos rond sous la bourrasque. C'est tout un troupeau de voiles minuscules, bleues, blanches et rousses, repoussées du large, chassées au ras des flots, presque aussi vite que cette fumée de nuages que le vent emporte follement sous le ciel obscur. Le dépit des envieux double le premier, la pointe blanche de la corbière, à l'abri de laquelle la mer brisée devient plus maniable. Le laisser-les-dire le serre avec l'intention évidente de lui couper la route. Mais Coët approche gaillardement les roches, malgré le ressac, pour empêcher l'adversaire de passer au vent. Les deux sloops naviguent dans les brisants, le bout dehors du second aiguillonnant le premier. Ils semblent à la merci d'une vague qui les culbuterait l'un sur l'autre. À la barre, les hommes gouvernent comme des dieux. Il y a des femmes sur la jetée, une main à leur coiffe, l'autre agrippée au garde-fou. Coët vire la balise rouge et vient casser son air dans le port où les rafales, enjambant la digue, soulèvent des plaques de frisure. Soudain, derrière lui, perché à bord de lourdement son canot, les deux patrons se toisent de toutes leurs faces où les yeux, surtout, vivent méchamment. Le soir, Julien Perchet s'en fut chez Zacharie. Il avait besoin de boire pour avaler sa défaite, de crier pour apaiser la colère qui bouillonnait dans le coffre de son thorax. Tous les mécontents étaient là. Les deux Aquenettes, Go, Isaacar, le marailleur, Vielle, le riche, Olichon, des gars à Piron et le père Piron lui-même, qui flairait quelques tournées à l'œil. La fille à Zacharie, avec un chignon en casque et une robe légère, remplissait les verres d'eau-de-vie blanche en penchant sa forte poitrine au ras des visages. Mais les hommes qui aimaient à la flatter d'habitude avec des regards équivoques l'ignoraient, le front lourd de soucis, l'œil fixe. Dehors, la mer tumultueuse occupait toute la nuit et le vent secouait les portes comme un hôte oublié. Sous la lampe, les pêcheurs faisaient le gros dos, serrant près à près les vareuses festonnées de blanc, par les dépôts salins, et leur rude trogne saurie où brasillaient les prunelles. La conversation était sourde comme un complot, mais si quelqu'un avançait que le dépit des envieux naviguait bien au plus près, Perchet hurlait « Du bois neuf, pardi ! C'est léger comme un bouchon !» Et si une autre voix signalait sa rentrée le premier, vent arrière, il lançait à nouveau « Un sabot ! Une charrette ! Tout fout le camp aux allures portantes !» 12 fois, la fille de Zacharie remplit les verres. L'alcool ensanglantait les visages, soulevait les bras en menace dans la fumée des pipes. La haine commune entretenait l'entente, et lorsque la femme de Perchet emmena son homme de force, les pêcheurs se dispersèrent, sans se battre, dans les ténèbres compactes où criait la mer. 2 jours plus tard, à son mouillage, le dépit des envieux échoua sur un grappin qui lui creva le ventre. Le lendemain, des cailloux lui entraient aux flancs. Coëte comprit que des vengeances imbéciles et féroces le traquaient et s'acharnaient bassement contre sa barque. Il fallait faire tête sans insolence, mais avec dédain, et la satisfaction d'avoir à lutter sans merci excita ses nerfs, gonfla ses muscles, dilata sa poitrine, bandant tout son être fort dans un désir d'expansion victorieuse, à la fois sauvage et meurtrière. Léon fut désigné pour coucher à bord, de quoi il s'accommoda joyeusement en songeant à Louise. Leur rendez-vous quotidien trouvait un abri confortable, et dès qu'il eut commencé sa garde, Léon vint chaque soir à la jetée chercher la fille avec son canot. Le port est infiniment calme dans les nuits de beau temps. Sur l'eau noire, qui semble opaque et sans profondeur, les chaloupes doublées par l'ombre sont, à ce point, immobiles et hautes, qu'on s'étonne de les voir remuer quand on les accoste trop rudement. La pointe des mâts monte parmi les étoiles. Quand on les touche, on sent les cordages, les ponts et les voiles suer à grosses gouttes. Le canot qu'on pousse à la godille paraît filer très vite dans les ruelles entre les barques, glisser sans effort, sur quoi ? Pas de remous, pas de sillage, pas de lueur, pas de bruit. C'est la mer pourtant, mais alourdie de ténèbres. Et lorsqu'on aborde la digue, immense au-dessus de la tête, on a l'impression douloureuse de ne pouvoir jamais aller au-delà. Quelquefois, cependant, la mer s'allume au passage du canot, se trousse en mince bourrelet de cristal bleu et déploie à l'arrière un éventail de pierres précieuses où opales, turquoises et lazulites jonglent autour de l'aviron, éclatent, s'éteignent, sombrent, rejaillissent et meurent à l'air dès qu'on les soulève avec la rame comme une pelletée de lumière. Les nuits de lune sont moins vastes que les nuits obscures parce qu'on voit un horizon, les plages blanches, les maisons blanches, l'eau glacée, le troupeau des sloops à la chaîne et la digue limitée, blanche aussi, et l'océan désert, mais révélé par son mirage pâle, si délicat. Le vague et l'infini des éléments disparaissent avec la lune parce qu'il y a un paysage imprécis, à vrai dire, et fantastique à cause de l'amplification des choses par les ombres. Mais le calme est pareil, plus rêveur et moins effrayant, plus humain, et qui sollicite le cœur mieux qu'une musique ou un poème. À l'échelle, Léon appelait doucement et attendait la Louise, qui, brusquement apparue là-haut, s'affalait pieds nus le long des échelons. Le gars la recevait à plein bras, la chatouillait pour rire un brin, puis il débordait en silence. Sitôt enfermé sous le rouf au moiteur saumâtre, il s'étreignait à tâtons, ce qui donnait lieu à de drôles de méprises. Elle était imprégnée des fadeurs de l'huile brassée toute la journée. Il sentait aigrement la sardine. Leurs mains rudes et leur jeune corps s'enlaçaient avec une belle force animale qui ployaient et faisaient craquer leurs membres. Le varech des paillasses grésillait sous eux à menu bruit. La barque close sommeillait discrètement sur l'eau muette. Au petit jour, la Louise s'échappait et rentrait à la masure familiale au risque d'attraper la raclée. Elle avait d'ailleurs trouvé le moyen d'éviter les coups de son père. Sa mère n'était pas dangereuse, molle et alourdie par une perpétuelle grossesse. Le samedi, malgré les menaces, elle gardait les deux tiers de sa paix et, durant la semaine, elle achetait, à l'occasion, la grâce d'une volée. « Touche-moi pas, t'auras 10 sous !» Et le père Piron, qui préférait encore 5 gouttes au plaisir de battre sa fille, se calmait, empochait la pièce et descendait chez Zacharie. Mais le vieux était vif, Louise gourgandine, et ses économies ne l'amenaient pas toujours jusqu'au samedi. Alors, elle n'avait plus qu'à garer son derrière. Depuis qu'un homme veillait à bord, le dépit des envieux échouait à l'aise sur le sable, ses beaux flancs intacts. La pêche marchait à souhait, et Coët, toujours le premier parti, le dernier revenu, faisait de rudes journées. Il se tenait à l'écart, en famille, mêlé le moins possible au village qui s'échauffait à l'approche des régates. Des menaces lui frappaient encore les oreilles de temps à autre au passage. Mais brusquement, la haine fut suspendue et l'attention détournée quand les sablets parurent sur la mer bretonne. La sardine venait de monter à terre jusqu'à l'entrée de la Loire, entraînant les barques où les hommes affamés sont en armes. La mer s'était couverte de voiles rousses, vertes, jaunes, bleues, éclatantes dans le grand soleil de l'été, de voiles décolorées, roses ou réséda, de voiles si lourdement teintées de cachou qu'elles pesaient comme des tours sur les coques minces. Les petits ports de la côte furent envahis. Les sloops s'entassèrent à quai, flanc contre flanc, si étroitement qu'on entendait craquer leur ossature aux basses mers de la nuit. Et des troupeaux entiers demeuraient sur rade, à rêver, comme de poétiques fantômes, le mât dans les étoiles. La sardine tomba du coup à vil prix. Les barques rentraient à morte charge et si nombreuses que, des usines, les refus partirent d'une seule voix, tandis que la concurrence amenait les marchés de misère. L'exploitation s'organisa automatiquement et un tour de vis fit crier ces hommes accourus, les boyaux vides, au seul endroit où ils espéraient manger. Le premier soir, 15 sablets vinrent à l'herbaudière offrir la sardine à 5 francs. L'usine Rochefortez et Préval l'obtinrent à 4 francs du mille. Mais les matelots n'eurent pas le temps de la porter au village. Déjà, les gars du pays escaladaient la jetée par les cales, les échelles. De grosses chenilles humaines rampaient à pic le long du granit. Les équipages accostaient à force d'aviron et dans un grand tumulte de galoches et de cris, les noirs moutrins tombèrent sur les sablets. Ce fut une mêlée de vareuses, de salopettes bleues où vibrait le retroussi rouge des caleçons. Des poings s'enlevaient au-dessus des faces briques qui roulaient sur les fortes épaules. Des sabots lancés rasaient les groupes et les paniers volaient sans répit, lâchant une pluie d'argent et jonchant le sol de sardines blanches. Le sel écrasé crépitait sur la digue maculée de sang. Un mousse jeté à l'eau regagnait son bord à la nage. On vit percher, culbuter une civière chargée de poissons par-dessus le garde-fou. Double nerf, brandir un aviron brisé. Et derrière leurs hommes, les femmes aboyaient après les sablets, sans songer aux épouses qui vivaient à crédit dans la tente. « Allô, buveur de sang, fils de putain, voleur, allô, allô !» Les malheureux n'eurent que le temps de courir au canot et de rallier leur sloop à toute godille, traqués par ces hommes qui étaient des pêcheurs comme eux, misérables comme eux et sauvages comme ils le deviendraient eux-mêmes pour défendre leur pain quotidien. Tout l'herbaudière était sur la jetée en rumeur. Le brigadier Bernard prononçait des paroles de paix après la bagarre, indulgent encore pour ces pays. « Qu'est-ce que vous voulez? On est chez nous, pas vrai? Faut pas qu'ils y viennent, voilà tout. » Il n'y a donc plus de poissons chez eux, qu'ils arrivent fouiller notre mer ? Grogna le patron du brin d'amour. Et, à la pointe de la jetée, près de la cloche de brume, perchait, la casquette en arrière, les poings tendus, déchargeait des menaces. « Et de la route, nom de Dieu ! Foutez-moi le camp !» Les sloops, mouillées dans le chenal, dérapaient leur ancre, reprenaient la mer lentement, comme à regret, et s'éloignaient en silence du côté du soleil qui se couchait rouge au large incendié. Ils s'en allaient sur l'océan calme, plus clément que les hommes, où ils attendraient d'être encore une fois chassés de terre le lendemain. Coëte ne s'était point mêlé de l'affaire. Tranquillement, son canot échoué sur la plage, il avait porté sa pêche chez Préval pendant la lutte. Mais la gaude qui descendait au port, attirée par le vacarme, l'avait vu rentrer à l'usine. Et maintenant, sur la digue, elle s'agitait parmi les coiffes et les bérets, en bousculant les hommes. « Vous êtes là comme des sots à feignanter. Il y a longtemps que Coëte a vendu sa pêche. » Les gars avaient oublié le poisson et poursuivaient d'un œil dur les grandes barques qui s'évadaient sur la mer ardente. Le souvenir de Coëte les exaspéra. La colère s'enfla vers le dépit des envieux, immobile sur son corps mort, la voilure amenée, alors que les autres sloops avaient encore leurs voiles hautes, et le nain proféra « Coëte est un traître, mais son tour viendra !» Dans la foule, Zacharie l'aubergiste semait des conseils, proposant une démarche collective aux usines pour exiger qu'il ne soit jamais rien acheté au Sablé, sous peine de grève. Perchet et Léa Quenette décidèrent le mouvement. La cohue se retourna et remonta au village où descendaient les filles curieuses en sabotant. Le soir tombait lentement et, en même temps que le jour, la mer se retirait, échouant les barques encore voilées, les canots pleins de sardines, tandis que le jusant emportait au large des paniers dont l'anse émergeait parmi les menus reflets d'argent qui dérivaient par milliers. Le tumulte roula par les rues, jusqu'au noir qui entassa les pêcheurs au XXe siècle, où Zacharie débita de l'alcool par litre. Les tablés étaient comme des grappes qui remuaient d'une seule pièce en grondant. Les jurons occupaient les bouches, et les verres au cul massif gonflaient les poings. En vain, des femmes tentèrent de rentrer leurs hommes. Très avant, dans la nuit calme, la lampe rougit le cabaret et les gueuleries passèrent sur le village. Chez elle, Marie-Jeanne tremblait à la veillée, dans la grande chambre où luisaient les meubles propres. Urbain l'exhorta. « Crains rien, va. Ils font plus de bruit que de besogne. Et il nous arrivera malheur tout de même. On nous déteste trop. Tant mieux. C'est ça qui donne du courage. » Urbain parlait rageusement, dans l'exaspération de sa volonté butée. Il citait son père, qui risqua sa vie pour sauver l'équipage norvégien. Un Coëte n'avait jamais reculé. Et, blâmant ces braillards qui gâchaient leur temps et leur argent, il ajouta « C'est jaloux, ça ne travaille seulement point !» Il travaillait tant, lui, pour satisfaire son ambition, pour arriver à posséder plusieurs barques et du bien en terre, comme Vielle le Riche, et s'assurer avec sa retraite une vieillesse paisible. Et près de la lampe basse, où il fabriquait du filet sans relâche, ses mains s'activaient, faisant craquer le fil, tandis que la crispation de ses sourcils fermait définitivement son front têtu. Marie-Jeanne l'admirait et reprenait confiance devant la puissance sûre de ses muscles et l'obstination formidable de se vouloir. À côté d'elle, dans la pièce voisine, les enfants dormaient en ronflant doucement. Elle savait que Léon veillait à bord du sloop, et cette régularité coutumière de la vie quotidienne lui rassura le cœur. Le lendemain de la bagarre, 6 gendarmes et un brigadier arrivèrent à bicyclette. On les logea par 3 dans chaque usine, et le brigadier s'installa chez Zacharie. Les marins les virent sur la jetée en rentrant. 2 pêchaient le mulet à la turlute, sur les conseils des douaniers. Les autres fumaient des pipes, assis les jambes pendantes ou appuyés au garde-fou. La soirée fut calme, bien qu'un grand sloop des sables, mal avisé, vint accoster la cale au coude de la jetée. 50 gaillards armés de trics l'accueillirent. À cause des vociférations, il fallut du temps pour comprendre que les sablais imploraient seulement du pain. Le patron, un haut gars aux traits coupants, élevait à bout de bras une pièce blanche. Un gendarme apporta une miche, puis, d'un seul effort, à la pointe des gaffes, les hommes repoussèrent la barque. Elle évita dans un geste arrondi de sa grand voile, et, sur ses fargues, on lut comme une dérision le nom formidable de Danton. Avec le temps, les esprits s'apaisèrent. Les sablais demeuraient sur les bancs et gagnaient, au soir, la côte bretonne, où cédaient leurs poissons aux vapeurs qui font le marché sur les lieux de pêche. Le mois d'août continuait juillet sans transition. Chaque matin, le même soleil d'or montait de l'est jusqu'au zénith pour retomber sans hâte, rouge, puis écarlate, dans l'océan que l'on s'étonnait de ne pas voir bouillonner en l'éteignant. Les barques, envolées à l'aube sur la mer smaragdine, rentraient tard sur un flot vermeil, mariées au ciel, à l'horizon. C'était le va-et-vient quotidien du large à l'île, la pêche, la vente, le séchage des filets bleus qui flottent au long des mâts comme des mousselines, autour du lourd chapelet des lièges. C'était la vie, redevenue monotone au village, qu'anime deux fois par jour la cloche des usines à la sortie des filles aux yeux hardis. Et les rivalités ressaisissaient les hommes, lâchés par les haines étrangères. On avait sans doute oublié de rappeler les gendarmes qui restaient là, faisaient la partie chez Zacharie, discouraient et fumaient avec les vieux derrière l'abri du canot de sauvetage, pêchaient à la ligne, enseignaient la bicyclette aux gamins après l'école et, à la nuit close, allaient causer un brin avec les jeunesses dans les dunes de la Corbière. Cependant, une activité singulière remuait les équipages. Le temps des régates approchait comme une Pâque, et les grands sloops lavaient leurs robes et revêtaient des grands voiles neuves, blanches comme du lin. Les ponts rajeunissaient sous la brique et les coques, lissés à la gratte, luisaient de black frais. À l'auberge, on se sentait les coudes en des conciliabules sourds et défiants. Ce fut l'époque où Coët teignit sa voilure en rouge, avec son grand flèche carré qui éclata, comme un étendard, au sommet de la mâture. Perchet en sauta ainsi qu'un taureau, croyant au défi. Et, la main sur le verre, on l'entendit jurer au XXe siècle. « Si je mange pas Coët aux régates, je suis pas un homme !»